Sécurité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du stress avec Éric Marien, qui est kinésithérapeute et ostéopathe, également diplômé en hypnose ericksonienne. Il vient de publier La gestion du stress, c'est aux éditions des Iris. Avec nous aussi Béatrice Millettre, qui est docteur en psychologie et psychothérapeute. Elle vient de publier Petit atelier du mieux-être au travail pour salariés de tous horizons. C'est aux éditions First Psycho et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Et nous avons maintenant au téléphone Marie-Thérèse Neuilly, qui est sociologue, maître de conférences à l'Université de Nantes, spécialiste de la gestion et de la prévention des crises. Marie-Thérèse Neuilly, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez publié Gestion et prévention de crises en situation post-catastrophe, c'est aux éditions De Bock. Quelles sont les particularités de la gestion du stress au moment de catastrophe?
Alors, il y a d'abord une première particularité, c'est qu'on arrive sur du collectif, bien que chacun de ces facteurs soit individuel, on a une communauté, un groupe, une société qui bascule dans cette rupture apportée donc par la catastrophe et qui va entraîner bien sûr dans un premier temps une peur intense, puisque c'est l'envahissement traumatique, rien ne laissait prévoir souvent cette catastrophe. Et les personnes vont être complètement bouleversées. On pourra parler d'une blessure psychique. Elles ont d'ailleurs souvent des blessures physiques aussi. Elles assistent à la destruction de tout ce qui est leur environnement. C'est souvent accompagné de deuil, puisqu'elles peuvent perdre des êtres chers dans cette catastrophe.
Quand vous parlez de catastrophe, vous parlez à la fois de tremblements de terre, d'inondations, de guerres.
Oui, et même d'accidents technologiques majeurs, hein, où on pourra avoir les mêmes phénomènes. C'est effectivement des catastrophes d'origine éventuellement industrielle et souvent sismiques. Bon, on peut aussi évoquer les tsunamis, comme vous le disiez aussi, les glissements de terrain, etc.
Comment prendre en charge ces personnes?
Alors, je pense qu'il y a... Actuellement, il y a deux niveaux de prise en charge. Je dirais qu'il y a une prise en charge qui va être, une fois passée, si on se situe vraiment dans le post-catastrophe, c'est-à-dire que les équipes d'intervention d'urgence vont être passées, vont avoir sauvé ceux qui étaient sauvables. Et,
en clair, on s'occupe d'abord du physique avant de s'occuper, je dirais, de la tête, c'est ça,
hein? Oui, c'est ça. On s'occupe du physique, on s'occupe de consolider, d'extraire, on a des équipes spécialisée, on l'a vu à Haïti, la catastrophe s'accompagne nécessairement d'une désorganisation sociale, puisque ça peut frapper complètement la tête d'un État même. Donc il va falloir de toute façon que l'aide internationale se mette en route pour porter secours. Et c'est vrai que dans le premier temps, on va essayer de sauver les personnes, voilà.
Mais après, on s'occupe justement de la partie qui est liée à ce stress dont on parle aujourd'hui.
Oui, très rapidement, il va falloir prendre en charge les personnes qui peuvent présenter divers symptômes. Hein. Certaines vont être prostrées, d'autres vont être agitées. Certains n'auront plus tellement conscience des réalités qui les environnent. Donc déjà, il y a une question de santé mentale qui va se poser en même temps que la question de santé physique. Je dirais que c'est concomitant, mais bon...
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes?
Alors, il y a d'abord la prise en charge individuelle. Je pense tout ce qui relève du soutien psychologique, de l'écoute... de l'aide pour les enfants, hein, qui vont être très très perturbés, très perdus. Donc, en gros, une approche psychothérapeutique, psychoclinique, d'écoute individuelle, Et puis la mise en place de programmes psychosociaux, parce que c'est il faut arriver le plus rapidement possible à restaurer la capacité de la communauté à se prendre en charge elle-même. C'est-à-dire pouvoir retrouver des activités qui vont leur assurer leur survie aussi de restaurer des liens entre eux.
Est-ce qu'on peut penser ou faire quelque chose dans le domaine de la prévention ?
Alors, dans le domaine de la prévention, il y a une prévention des catastrophes quand même déjà assez concrète, puisque sur certaines zones, on sait que ce sont des zones à risque. Les zones sismiques sont connues, et la première prévention, c'est d'une part une prévention technique, hein, qui consiste à faire des constructions antisismiques et à pas se mettre quand même nécessairement à l'endroit ingérable, et c'est aussi une éducation de la population. Et c'est on voit bien que dans un premier temps de catastrophe, de toute façon, c'est les individus proches qui vont aider leurs concitoyens. Donc là, c'est prenons l'exemple des enfants, c'est faire des exercices dans les écoles qui peuvent être sur des zones sismiques, faire que les enfants apprennent à s'abriter, faire qu'ils puissent s'entraider, développer des solidarités en même temps entre eux. On part pas en laissant son camarade, et chez les adultes, c'est aussi une approche collective de développement de solidarité et d'expertise sur qu'est-ce qu'il faut faire si il se passe tel type de sinistre.
Éric Marlien, ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, dans la gestion du stress, il y a aussi le côté justement essayer d'être acteur, ne pas faire que subir.
Oui, tout à fait, c'est comme je le disais, c'est ce qu'il y a de plus préjudiciable tant au niveau de l'organisme, les conséquences médicales, qu'au niveau psychique, parce que lorsqu'on se sent impuissant, eh bien, il n'y a plus rien qui a du sens dans notre existence. Donc l'effort qu'il faut faire, c'est de retrouver sa liberté. Où est-ce qu'on peut avoir une marge de liberté ? En fait, c'est s'autonomiser, c'est passer d'une situation passive, parfois même on se sent victime, une situation de plainte qui ne fonctionne pas, qui nous apporte finalement que des conséquences négatives, à une situation où on retrouve un potentiel et une autonomie psychique.
Marie-Thérèse Neuilly, vous travaillez aussi, vous venez en aide aux intervenants humanitaires.
Oui, puisque eux-mêmes, pour qu'ils soient efficients, il faut qu'ils soient en bonne santé mentale, on va dire. Hein. Le travail humanitaire au quotidien est déjà un travail stressant. Et d'autre part, il y a par exemple sur des zones instables, il peut y avoir des incidents critiques dans lesquels ils vont se sentir menacés ou être objectivement menacés. Et on va travailler sur les trois temps même. Premièrement, des briefings qui les amènent à bien comprendre où ils vont et à bien mesurer leurs propres forces et ce qu'ils vont devoir vivre. Les accompagner pendant tout leur travail, téléphoniquement éventuellement, s'ils ont envie d'en parler. Et s'il y a eu un incident fort, faire des debriefings dans lesquels ils peuvent exprimer leurs sentiments et se libérer de ces peurs en partie, en tout cas en les verbalisant.
Marie-Thérèse Neuilly, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université de Nantes et que vous êtes spécialiste de la gestion et de la prévention des crises.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons du stress, de la façon dont on peut le gérer, le surmonter. Et les auditeurs sont nombreux à nous appeler pour vous poser des questions, ce qui prouve bien que le stress est présent sur tous les continents. On a Samuel qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun et qui a une question à vous poser. Samuel, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour docteur.
Nous vous écoutons.
Bonjour. Samuel, voilà, je suis Samuel Bertrand, je suis étudiant à l'université de Yaoundé 1. J'ai lu dans un article que le stress permet de mieux préparer un grand événement à venir, comme un examen, un concours. Ma première question est celle de savoir si le stress a des particularités bénéfiques pour l'être humain.
Et dites-nous aussi votre deuxième question.
Oui, j'ai une deuxième question, c'est la suivante. Les animaux connaissent-ils le stress? Si oui, comment font-ils pour s'en sortir?
Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer à répondre.
Oui, je veux bien. Oui, c'est vrai que le stress, par définition, c'est quelque chose qui nous permet de nous adapter à un changement. Ça, c'est basique. Et effectivement, comme disait Eric tout à l'heure, c'est le combat ou fuit de l'homme de Néandertal. Moi, je prends toujours l'exemple de Néandertal. Mais c'est vrai que ça nous permet de faire face à un danger et
ou
à n'importe quel changement. Donc oui, il y a un bénéfice. C'est ce qui permet, en fait, de mobiliser nos ressources pour faire ce qu'on a à faire. Et effectivement, dans le cas d'un examen, si vous allez à un examen les mains dans les poches, pas stressé pour deux ronds, sans avoir rien révisé, vous allez moins bien réussir que vous avez un tout petit peu de stress. Trop, c'est pas terrible. Pas assez, c'est pas terrible non plus. Donc il y a pas que du mauvais stress. En ce sens, c'est
Éric
pas
Marien,
mal.
Vous êtes d'accord avec ça? Le stress, ça peut aussi aider à se concentrer finalement.
Pour expliquer les choses. Sans stress, on n'a pas de ressources énergétiques disponibles. Donc c'est ce qu'on appelle le stress, c'est le moteur. En fait, le stress devient un problème dès lors que notre adaptation n'est plus adaptée à la situation.
Et les animaux, est-ce qu'ils stressent? C'était la deuxième question de Samuel, Bertrand.
Moi, je pense que oui, puisque de toute façon, le stress est une des formes de l'anxiété sur le continuum entre le stress, la peur, l'anxiété, etc. Et que effectivement, la réaction de combat ou fuite, c'est quelque chose qui est très basique physiologiquement parlant et que on a tous.
Merci Samuel Bertrand pour votre question. Et on a Abidine, c'est ça, qui nous appelle de Ouagadougou. Abidine, bonjour.
Bonjour.
Vous écoutons.
Ok, j'ai trois questions pour vos spécialistes.
Allez-y.
Ok, quelle différence y a-t-il entre stress, angoisse et dépression? La deuxième question, si on guérit totalement le stress, partira-t-il sans en connaître les causes, c'est-à-dire les causes qui sont à l'origine de la maladie? La troisième question, la maladie, lorsqu'elle s'accompagne de troubles gênants, c'est-à-dire des palpitations, des tremblements, les extrémités, la peur, les battements cardiaques, est-ce qu'elle peut être guérie sans dépendance d'antidépresseurs?
Alors, Éric Marnière, vous allez essayer de répondre à ces questions si vous le voulez bien. Quelle est la différence entre stress, angoisse et dépression?
Je vais peut-être laisser cette première question à Béatrice,
à la psy, c'est ça.
J'essaierai de répondre aux
deux autres. Voilà. D'accord. Alors, Béatrice Millet, différente en stress, angoisse et dépression.
Alors, comme je viens de le dire, je crois qu'on est sur un continuum entre le continuum de la peur, tout simplement, du stress à l'anxiété, à l'angoisse, à la peur panique. La dépression, c'est pas le même registre. Hein. On peut être déprimé sans être forcément anxieux, stressé. Il y a eu toute une polémique sur l'anxiété-dépression. Est-ce que c'est une seule maladie? Est-ce que ça en sont deux? On n'est pas forcément déprimé en étant anxieux, ni anxieux en étant dépressif. Ça peut être un corollaire, une conséquence si on veut, mais c'est pas forcément lié.
Tout
n'est pas forcément lié. Sinon, je dirais que c'est une question de degré. On peut être stressé un peu et ça peut dégénérer en crise d'angoisse. Crise d'angoisse, on monte, on atteint vraiment un sommet avec
on
le cœur qui...
Plus à rien faire,
on peut plus rien faire, on a l'impression qu'on va mourir. Et après, ça peut devenir effectivement chronique. Donc tout ça, c'est un peu le même...
Ça peut être réuni ensemble, mais il y a des différences. Éric Marlien, est-ce qu'on peut soigner, on peut guérir le stress par thérapie?
Ah ben ça me paraît évident. Heureusement qu'il y a suffisamment d'exemples cliniques qui le montrent. L'auditeur parlait de peut-on guérir le stress sans en connaître les causes? Oui et non. Il y a des adaptations possibles pour la gestion du stress qui nous permettent de fonctionner de façon plus harmonieuse, c'est évident. J'ai essayé de proposer dans le livre que j'ai écrit une réflexion, une nature un peu plus ontologique pour ça, pour revenir un peu plus sur les causes, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui fondent la vie humaine. Par exemple, pour répondre aux questions, pourquoi se sent-on obligé absolument d'avoir une progression en termes de carrière? Pourquoi se sent-on obligé d'avoir de posséder telle ou telle voiture, telle ou telle télévision, etc. Ce sont des éléments qui finalement nous amènent à des situations de stress parce qu'on a, on se met des impératifs internes. On a intégré certaines notions, intériorisé des obligations. On a ensuite tout le domaine de la psychanalyse, de la psychothérapie qui permettent aussi de remonter aux causes et aux blessures de base.
On se stresse tout seul en fait, hein?
On se stresse bien. Oui,
on n'a pas forcément besoin des autres.
Je crois que c'est quand même l'influence sociale aussi. C'est pas tout seul. C'est le fait de vivre en communauté.
Mais
effectivement, c'est un peu la règle du jeu aujourd'hui.
Pourquoi certains individus acceptent ces conditionnements sociaux? Pourquoi d'autres arrivent à s'en démarquer? Donc je pense qu'il y a des
questions
à se poser.
C'est intéressant de réfléchir à ça. Et quand ça devient, Abidine nous disait, mais quand ça devient gênant avec des palpitations, des tremblements, une peur omniprésente. Est-ce qu'on peut guérir effectivement sans faire appel à des traitements, des médicaments ?
Bien, en phase aiguë, peut-être qu'il faut avoir recours à une aide de ce type-là, ça dépend de chacun. Mais ce que je dis, c'est que c'est possible. Par contre, ce n'est pas facile. Lorsqu'on a des conditionnements très ancrés, des habitudes de fonctionnement psychosomatique vraiment habituelles, c'est pas facile, mais c'est possible. Ça nécessite quand même beaucoup de détermination et une certaine dose de volonté. Donc c'est pour ça que j'avais proposé un programme d'entraînement assez long, parce que j'avais remarqué, en m'occupant de beaucoup de patients, que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Il ne faut pas non plus faire des promesses illusoires, mais elles sont possibles si on est déterminé à se prendre en charge et à faire ce qu'il faut pour.
Abidine, merci beaucoup pour votre question. Éric Marlien, je voudrais justement qu'on revienne un peu sur les exercices que vous proposez. Les exercices, par exemple, au départ de respiration, mais aussi de visualisation. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exercices qu'on pourrait faire ?
Voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir observer sa respiration. Alors, je propose un exercice où on s'assit confortablement et puis on essaye simplement d'être spectateur de notre respiration pour voir comment elle se déroule spontanément. Parce qu'ensuite, dans la vie quotidienne, c'est quelque chose de facile à voir lorsque notre respiration se perturbe, se bloque, devient restreinte. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est savoir trouver un rythme respiratoire qui devient de plus en plus automatique et qui soit un peu plus calme que celui qu'on a habituellement lorsqu'on est stressé. Pour ça, il faut être dans une position assise bien droite, parce que c'est la position de la colonne vertébrale qui permet le mieux au diaphragme de fonctionner correctement. Et puis de mettre une main sur son abdomen et l'autre sur son thorax, sur sa poitrine. Essayer d'inspirer, d'inhaler de l'air lentement, profondément, sans effort. Cette notion de sans effort est très importante. Souvent, quand on demande aux gens de respirer, ils vont faire un effort en tirant, voyez, en contractant leurs muscles du cou. Et c'est pas du tout profitable. Ce qu'il faut donc, c'est laisser l'air rentrer et ne pas y faire obstacle par le nez. Et dans un second temps, de souffler aussi lentement par le nez. Donc l'ordre, c'est de gonfler d'abord son abdomen, puis sa poitrine doucement, et pendant l'expiration, le contraire, de laisser vider sa poitrine, puis son abdomen. Ensuite, pour ce qui est ce qu'on rajoute volontiers, c'est de demander à la personne de centrer sa conscience dans la région du cœur et de visualiser une lumière blanche ou dorée venir irradier cette région du cœur pendant qu'il inspire, et ensuite, pendant qu'il souffle, de voir cette lumière diffusée dans tout l'organisme. C'est un exercice qu'il faut pratiquer pas trop longtemps, il ne faut pas passer en hyperoxygénation non plus, mais environ 5 à 10 minutes. Et si on le pratique régulièrement tous les jours, peu à peu, on arrive à trouver un rythme respiratoire dans notre vie quotidienne qui va s'harmoniser et devenir plus efficace.
Et ce genre d'exercice, ça calme justement, c'est ça ?
Ça calme.
Ça évite de stresser. Béatrice Millet, dans votre ouvrage, vous répondez à des questions justement qu'on peut se poser, entre autres essentiellement dans le monde du travail. J'en ai relevé plusieurs, entre autres une, je suis noyée dans mes mails. Dans mes emails.
Ah oui, ça c'est aussi un mal du siècle. Alors effectivement, on a tous, entre les mails commerciaux, les mails qui ne nous concernent pas, les mails qu'on envoie à son chef ou à ses collègues pour se couvrir, enfin on en reçoit des centaines par jour parfois. Donc on les ouvre plus, donc finalement ça sert plus à rien d'envoyer des mails. Donc je crois qu'il faut arriver à faire le tri, enfin ça c'est bête de le dire mais c'est quand même ça, et déjà un peu, comment dire, apprendre à ceux qui envoient des mails, aux correspondants, que s'il n'y a pas un titre explicite, on ne l'ouvrira pas. Si ça ne nous concerne pas, on ne l'ouvre pas. Déjà, de demander quand on a une assistante, des collaborateurs, de faire aussi le tri. Et de pas se sentir obligé de lire tout ce qui nous arrive, parce que finalement, on n'est pas toujours concerné. Et c'est aussi la peur de passer à côté d'une information. Mais finalement, encore une fois, on retombera sur nos pattes. Si on a besoin, on ira la chercher là où il faut.
Vos conseils sont beaucoup des conseils, finalement, d'organisation. C'est la désorganisation qui nous stresse.
Je ne sais pas si je dirais d'organisation, mais je dirais aussi d'arriver aussi à prendre un peu de recul sur les choses. Et comme disait Eric, il faut un peu réfléchir 3 secondes et demie. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de gestion du stress, mais pas de sa prévention. Alors, ce n'est pas d'actualité dans le cadre du travail, parce qu'on est tous dans l'engrenage. Mais à un moment donné, on peut se dire qu'on a aujourd'hui les moyens de faire de la prévention et qu'on ne le fait pas.
Une complainte qui revient souvent, c'est « je n'ai le temps de rien ».
Oui. Oui, on court tout le temps, on part d'un endroit à un autre, mais finalement c'est un peu pareil, on se crée des obligations là où on n'en a pas forcément, et c'est aussi une question, je dirais, de personnalité. Vous avez, enfin, c'est ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui voient le verre à moitié vide, des gens qui sont, vous donnez un emploi du temps de ministre à une personne qui va se sentir submergée, vous le donnez à une autre, il va dire, ben non, ça va, pourquoi tu dis que j'ai le temps de rien, je fais plein de choses, c'est tout. Ils vont être aussi contents. Donc il faut aussi, derrière, donner un petit peu de sens à ce qu'on fait.
Et avoir poser un regard différent.
Oui.
Éric Marlien, vous êtes d'accord avec ça finalement, de temps en temps peut-être qu'on manque de bon sens.
Oui, tout à fait. Il faut apprendre à se connaître et savoir de quelle façon on peut fonctionner harmonieusement et à partir de quand on dépasse nos propres limites. Moi, je sais qu'en tant que praticien en cabinet, j'ai jamais voulu avoir un agenda surbooké parce que ça me stresse et j'ai pas envie de faire l'effort de gérer ce stress-là. Donc je préfère avoir des consultations plus espacées, avoir un peu de temps pour lire un journal entre deux patients de temps en temps, ou faire un exercice de gestion du stress s'il faut, plutôt que de me retrouver dans une situation qui ne me convient pas, quitte à gagner moins d'argent. Donc il faut essayer de définir ses priorités. Mais je voulais aussi dire que maintenant, depuis l'affaire France Télécom, on a quand même des choses qui vont se mettre en place. Et je crois savoir qu'il va y avoir une obligation pour les entreprises d'animer des ateliers de gestion du stress pour leurs salariés.
Ce qui est important aussi, Béatrice Millet, s'organisent.
Mais c'est important que les entreprises aient conscience qu'il y a un véritable problème effectivement, d'organisation, de choses qu'elles peuvent faire, effectivement.
Et si vous voulez bien, on va terminer en parlant d'une décision de la Cour de cassation, justement, sur un préjudice qui a reconnu un préjudice spécifique d'anxiété. Mai dernier, la Cour de cassation a reconnu un préjudice spécifique d'anxiété à des travailleurs victimes de l'amiante. Pour en parler, nous avons au téléphone André Letouzé, qui est administrateur de l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Il est également membre du bureau de l'association Henri Pézra. André Letouzé, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Concrètement, que dit cette décision de la Cour de cassation ?
Alors, cette décision, la Cour de cassation indique que le préjudice d'anxiété doit être dédommagé. Hein, donc ça fait partie de toute cette réparation intégrale qu'on essaye de mettre en place.
Est-ce que ça veut dire qu'on reconnaît finalement qu'une maladie professionnelle est une source de stress et qu'on reconnaît le stress en tant que tel ?
C'est-à-dire, oui. Du fait que les gens ont été contaminés à un moment donné dans leur emploi, donc derrière, il y a un préjudice qui est subi du fait de l'anxiété. Et donc cette anxiété, par cette décision du 11 mai, va être indemnisée maintenant.
Et ça veut dire qu'on ne reconnaît pas simplement un impact physique, mais aussi psychique.
Tout à fait. Hein, parce qu'il faut bien dire que quand on est contaminé, par exemple, comme avec l'amiante, qui est un produit cancérigène, c'est vrai que ça va perturber à un moment donné sa vie. On va avoir des périodes d'angoisse, on va avoir des périodes d'anxiété. Et on se demande toujours à quel moment la maladie va se déclarer.
Cette décision, on l'imagine bien, elle est importante pour vous, en tant que membre de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Quel peut être son impact sur la prévention ?
Alors là, c'est vrai que concernant la prévention, c'est du fait que ce préjudice d'anxiété va être mis au compte des employeurs, ça devrait inciter les employeurs à essayer de mettre en place la prévention pour justement ne plus exposer les salariés à des produits cancérigènes, à des rayonnements, ainsi de suite, qui vont perturber la partie psychique de l'individu.
Par contre, dans cette décision de la Cour de cassation, il n'y a pas de reconnaissance de la perte économique.
Non, la perte économique n'a pas été reconnue. Moi, je vous dirais, je pense que c'était un enjeu financier extrêmement important, puisque la Cour de cassation avait deux sujets à traiter, un sur l'anxiété et l'autre sur la perte économique. Et donc, je pense que les juges ont été assez sensibles au coût économique de cette perte de salaire.
Ça coûte moins cher finalement d'indemniser l'anxiété que la perte de salaire.
Ben, je pense oui, parce qu'il faut voir, ce sont des dizaines de milliers de salariés qui éventuellement pourraient être indemnisés concernant les pertes de salaire. Hein.
André Letouzé, merci. Hein. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'Andeva, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Béatrice Millez, je voudrais un mot de conclusion pour terminer cette émission sur le stress.
Oui, moi j'aimerais quand même dire à tous les auditeurs que le stress, c'est un mal du siècle, on l'a dit et redit, mais il y a des choses à y faire. Et effectivement, si on a envie de s'en débarrasser, on peut. Et moi, si je peux donner un petit truc, c'est déjà de prendre conscience que chaque fois qu'on a quelque chose à faire, finalement, on le fait. Alors les gens disent, oui, mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ça. Oui, mais de manière très basique, le minimum syndical, si je peux dire, à chaque fois, l'objectif est atteint. Et donc, il faut prendre conscience de ça pour être capable de se dire, la prochaine fois, j'y arriverai aussi. Et donc, ça sera de moins en moins stressant au cours du temps.
Donc, être un peu plus indulgent avec soi-même.
Un peu plus indulgent avec soi-même et changer un petit peu de lunettes. Et puis, un peu plus indulgent aussi avec nos enfants parce qu'on leur met la pression dès qu'ils sont tout petits. Je disais, on peut faire de la prévention. Ça serait bien que, même sans faire de la prévention, on commence à moins les stresser dès la maternelle quand même.
Éric Marlien, un mot de conclusion ?
Je voulais juste réagir une seconde sur ce qui vient d'être dit là, précédemment par téléphone. Évidemment, je trouve formidable que soit pointée la responsabilité des pouvoirs publics, des entreprises, et pour des choses comme l'amiante, c'est vraiment réjouissant. En même temps, donc, de faire prendre aux pouvoirs publics et aux chefs d'entreprise leurs responsabilités. Ceci dit, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, parce que sinon, on va aussi complètement contribuer à déresponsabiliser les individus. Si le stress ne vient que de l'extérieur, alors on n'a plus rien à faire et ça va contribuer à rendre les gens toujours plus passifs et ça ne va pas apporter de solution. Donc il faut toujours faire cette part des choses, ce juste équilibre entre les responsabilités partagées.
Et savoir qu'on peut faire quelque chose, c'est important. Éric Marlien, merci. Hein. Je rappelle que vous avez publié La gestion du stress, c'est aux éditions Désiris. Béatrice Millettre, merci également. Vous avez publié Petit atelier du mieux-être au travail, c'est aux éditions First Psycho. Merci à France Bleu Provence qui nous a permis d'établir cette liaison. Et demain, nous parlerons du métier de sage-femme. Vous pouvez nous appeler au 33 1 56 40 18 22 si vous voulez apporter votre témoignage ou envoyer un email à priorité.santé@rfi.fr. À demain.